Il y avait alors 2 ans que Daniel et Mademoiselle Henriette avaient été séparés par la plus lâche des trahisons. Oui, 2 ans s'étaient écoulés depuis cette soirée fatale où la voix stupidement railleuse du comte de la Vilaudrie avait tout à coup éclaté près d'eux sous les grands arbres du jardin de la rue de Varennes. Que d'événements depuis, inouïs, invraisemblables! Que d'épreuves, de tribulations, de misères! Tout ce que peut souffrir l'âme humaine, il l'avait enduré. Il n'était pas à jour, pour ainsi dire, de ces 2 éternelles années qui ne leur eût apporté son tribut de douleur et d'amertume. Combien de fois, l'un et l'autre, avaient-ils désespéré de la destinée? Combien de fois avaient-ils souhaité la mort? Et cependant, voici qu'après tant d'orages, ils se trouvaient réunis, et abîmés dans les indicibles félicités de leur présente, ils oubliaient tout, leurs ennemis et la terre entière, les angoisses du passé et les menaces de l'avenir. Longtemps, ils demeurèrent ainsi serrés l'un contre l'autre, éperdus de bonheur, fous, ne pouvant croire à cette réalité si ardemment désirée, incapables d'articuler une parole, riant et pleurant tout à la fois. Par instants, ils s'écartaient un peu, renversant la tête en arrière pour se mieux contempler. Puis, bien vite, leurs bras se resserraient en une étreinte plus forte, comme s'ils eussent craint qu'on ne vînt encore les séparer violemment. « Comme ils s'aiment !» murmurait Madame Berthold à l'oreille de son frère. « Pauvres jeunes gens !» Et de grosses larmes roulaient le long de ses joues, pendant que le vieux brocanteur, non moins ému, mais dont l'émotion se traduisait autrement, serrait les poings à centrer les angles dans les chairs et grondait « C'est bon, c'est bon. Tout cela sera mis sur la carte à payer. » Daniel, cependant, se remettait peu à peu et la raison reprenait sur lui son empire. Il soutint Mademoiselle de la Vilaudrie jusqu'à un fauteuil au coin de la cheminée, et s'asseyant en face d'elle, après lui avoir pris les mains qu'il garda dans les siennes, il demanda, il exigea l'histoire fidèle de ces 2 lamentables années qui venaient de s'écouler. Et il fallut qu'elle lui dît tout. Ses humiliations à l'hôtel de la Vilaudrie, les outrages dont on l'avait abreuvé, de quelle calomnie indigne elle avait flétri son honneur de jeune fille, l'incompréhensible aveuglement du comte, les sournoises provocations de sa belle-mère, les immondes obsessions de Sir Thomas Elgin. Enfin, tout ce complot abominable, organisé, elle l'avait reconnu trop tard, pour la déterminer à s'enfuir de la maison paternelle et à la pousser à se livrer à Maxime de Brévent. Secouée par des spasmes de rage, livide, les yeux injectés de sang, Daniel lâcha brusquement les mains de Mademoiselle Henriette et d'une voix étouffée. « Ah ! S'écria-t-il, votre père mériterait, misérable vieillard, abandonner son enfant aux caprices des plus abjects scélérats !» Et comme la pauvre fille arrêtait sur lui des yeux suppliants, « Soit, fit-il, ne parlons pas du comte, il est votre père, il suffit. » Puis, froidement, « Mais ce Thomas Elgin, je jure Dieu qu'il ne mourra que de ma main. Quant à Sarah Brandon, il fut interrompu par le vieux brocanteur qui, lui frappant sur l'épaule, lui dit avec un sourire indéfinissable, « Vous ne ferez pas tant d'honneur à l'honorable Thomas Elgin, monsieur Chancé. Ce n'est pas de l'épée d'un honnête homme que meurent les gens comme lui. » Cependant, Mademoiselle Henriette avait repris son récit et disait sa stupeur et ses pressentiments sinistres en arrivant dans cette pauvre chambre de la rue de la Grange-Batelière, à peine garnie de meubles de rebut. « Et pourtant, Henriette, interrompit Daniel, la veille même de mon départ, j'avais confié à cet homme toute ma fortune pour qu'il l'a mis à votre disposition en cas de malheur. Quoi ? S'écria le vieux brocanteur, vous aviez ? » Il n'acheva pas, mais il considéra le jeune officier d'un air de curiosité ahurie. Comme un phénomène invraisemblable. Tristement, Daniel hochait la tête. « Oui, je sais, fit-il. C'était un acte de démence, moins grand cependant que de lui confier ma fiancée. Je croyais à l'amitié de cet homme. Et d'ailleurs, objecta Madame Berthold, comment supposer une si effroyable trahison? Il est de ces crimes dont jamais le soupçon n'effleurera les gens de cœur. » Mademoiselle Henriette poursuivait. Disant ses impressions quand, pour la première fois, elle s'était trouvée aux prises avec la misère, avec le besoin, avec la faim. Mais quand elle en arriva aux dégoûtantes persécutions de la Chevassa, « Arrêtez !» s'écria Daniel. Et profondément troublé, « Ai-je bien entendu » demanda-t-il. « Est-ce bien Chevassa que s'appellent les concierges de la rue de la Grange-Batelière ? » ?»« Oui, pourquoi ?» Parce que le véritable nom de Maxime de Brévent est... « Justin Chevassa. » Le père Ravinet fit un bond de 3 pieds. « Quoi ? S'écria-t-il, vous savez cela ? » ?»« Depuis 3 mois. Je sais aussi que mon ami Maxime de Brévent, le fier gentilhomme que recevait les salons les plus aristocratiques de Paris, a été au bagne, pour faux. » Mademoiselle Henriette s'était dressée, la pupille dilatée par la stupeur. « Alors, balbutia-t-elle, ce misérable serait... » « Le fils de la Chevassa, oui, mademoiselle, » répondit Madame Berthold. « Oh, fit la pauvre jeune fille, oh !» Et lourdement, elle se laissa retomber sur son fauteuil, épouvantée de tant d'infamie. Seul, le vieux brocanteur conservait encore son sang-froid. « Comment avez-vous appris cela ?» demanda-t-il à Daniel. « Par l'homme que mon ami Maxime avait payé pour m'assassiner. » Positivement, mademoiselle de la Ville-Audry sentait sa raison s'égarer. « Ah, j'avais bien compris que cela chamboulait à votre vie, Daniel. Je vous ai écrit de prendre garde. Et j'ai reçu votre lettre, mon ami, mais trop tard. Après m'avoir manqué deux fois, l'assassin venait de me tirer un coup de fusil et j'étais au lit, la poitrine trouée par une balle, mourant. « Qu'est devenu l'assassin ?» demanda vivement le père Ravinet. « Il a été arrêté. » « Alors, il a tout avoué ?» « Oui, grâce à la surprenante pénétration du juge d'instruction. Qu'est-il devenu ?» Il doit avoir quitté Saïgon. On l'envoie en France pour y être jugé. Et Brévent ? Je suis surpris qu'il ne soit pas encore arrêté. Le dossier de l'affaire a été expédié à Paris par un navire parti plus de 15 jours avant moi. Il est vrai que le Saint-Louis l'a peut-être devancé. En tout cas, je suis chargé d'une lettre pour le parquet. Une sorte de délire s'était emparé du père Ravinet. Ses gestes étaient ceux d'un fou et un rire nerveux. Un rire véritablement effrayant secouait sa poitrine à la briser. « Je verrai Brévent sur l'échafaud, disait-il. Oui, je l'y verrai. » Mais de ce moment, s'en fut fait de la logique et de l'ordre maintenu tant bien que mal par le bonhomme. Comme il arrive toujours entre gens que la passion exalte, ardent à apprendre ce qu'ils ignorent, peu préoccupés de dire ce qu'ils savent, la confusion arriva vite. Les questions se croisaient et se précipitaient, sans suite, sans raison. Les réponses ne se rapportaient plus aux demandes. Chacun prétendait être écouté, tous parlaient à la fois. Si bien que des explications qui, conduites avec méthode, eussent été l'affaire de 20 minutes, exigèrent plus de 2 heures. Enfin, au bout de ce temps et après bien des efforts, il fut possible de réunir la somme des informations du père Ravinet, de Daniel et de mademoiselle Henriette. La vérité commença à se dégager du chaos, et le plan de Sarah Brandon et de ses associés apparut. Plan d'une simplicité formidable et dont le succès avait tenu à un fil. Que le vieux brocanteur, au lieu de sortir de chez lui par l'escalier de service ou sorti par le grand escalier, et il n'entendait pas le râle de l'agonie de mademoiselle Henriette, et s'en était fait de la pauvre enfant. Un écart de 10 millimètres de la balle de crochard dit Bagnolet, et Daniel était mort. Et cependant, le vieux brocanteur n'était pas pleinement satisfait. Au pli de sa lèvre inférieure et au clignement de ses yeux jaunes, il était aisé de voir que ses convictions hésitaient encore et que certaines circonstances lui paraissaient imparfaitement expliquées. « Tenez, monsieur Chancier, commença-t-il. Enfin, plus je réfléchis, plus je me pénètre de cette idée que Sarah Brandon n'est pour rien dans toutes ces tentatives d'assassinat dont vous avez failli devenir victime. Elle est trop forte en sa perversité pour descendre à des moyens si grossiers, qui toujours laissent des traces et finalement conduisent en cour d'assises. Elle agit seule quand sa résolution est prise, et jamais elle ne s'est servie que de complices involontaires qui, ne sachant rien, ne pouvaient la trahir. » Daniel était devenu pensif. « Ce que vous me dites là, murmura-t-il, Monsieur de Brévent me l'avait dit autrefois. Le bonhomme ne dut pas l'entendre, tant passionnément il appliquait toutes ses facultés à suivre le fil ténu de ses inductions. Cependant, continuait-il, l'embauchage de Crochard, dit Bagnolet, est un fait. Brévent aurait donc agi à l'insu de la comtesse Sarah et même à l'encontre de ses volontés. C'est admissible. Mais pourquoi alors, dans quel but? Pour s'emparer de la fortune que monsieur Chancé avait eu l'imprudence de lui confier, répondit mademoiselle Henriette. Mais le père Ravinet hocha la tête d'un air sagace. C'est une explication, fit-il, je n'en disconviens pas. Seulement ce n'est point la bonne, la véritable. Le meurtre est un expédient si dangereux que les plus redoutables scélérats ne l'adoptent qu'à leur corps défendant et à la dernière extrémité. Brévent, pouvait-il s'emparer du dépôt qui lui a été confié sans faire assassiner M. Chancé? Évidemment oui. Donc il faut chercher ailleurs le mobile du crime. C'est la peur, me direz-vous, qui l'a poussé? Non. Car au moment où il a embauché Bagnolet, il ne pouvait prévoir de quelle monstrueuse infamie il se rendrait coupable 1 an plus tard. Croyez-en mon expérience, je discerne dans toute cette affaire une précipitation et une maladresse qui trahissent la passion, une haine violente ou bien... Il s'interrompit brusquement et parut réfléchir et délibérer en lui-même, pendant que d'un mouvement machinal il caressait son menton glabre. Puis tout à coup, arrêtant sur Daniel un regard étrange... « Si la comtesse vous aimait, monsieur Chancé, » prononça-t-il, un flot de sang empourpra le visage de Daniel. Elle n'était pas sortie de sa mémoire cette funeste soirée où, rue du Cirque, il avait tenu entre ses bras Sarah Brandon à demi pâmée, palpitante et les cheveux épars, et il lui était resté comme un remords de cette ivresse d'une minute. Jamais il n'avait avoué à Mademoiselle Henriette que Sarah Brandon avait osé venir chez lui seule, dans son appartement de garçon. Et ce soir même, s'il avait raconté fort exactement toutes les circonstances de son voyage et de son séjour à Saïgon, il s'était bien gardé de parler des lettres que lui avait adressées la comtesse. Sarah Brandon m'aimait, balbutia-t-il, quelle idée! Mais il ne savait guère mentir, ce pauvre Daniel, et Mademoiselle de la Villaudrée n'eût pas été femme si elle ne se fût pas aperçue de son trouble. Pourquoi non? Dit-elle. Et fixant obstinément Daniel, cette misérable, poursuivit-elle, s'est vantée à moi impudemment de vous aimer. Elle a osé plus encore. Elle m'a juré que vous l'aviez aimé, vous, que vous l'aimiez toujours. Elle me raillait audacieusement, disant qu'elle avait tout pouvoir sur votre cœur, me proposant de me montrer vos lettres. Elle hésita, détourna la tête et avec un effort visible. Enfin, murmura-t-elle, Sir Thomas Elgin m'affirmait que Sarah Brandon avait été votre maîtresse et que ce mariage avec mon père n'était que la suite d'une querelle entre vous. Daniel avait écouté, frémissant d'indignation. Et vous avez pu ajouter foi à ces basses calomnies, s'écria-t-il. Oh non, non, n'est-ce pas? Il n'est pas besoin que je descende jusqu'à me justifier. Puis, se retournant vers le père Rabinet, soit, fit-il, admettons pour un instant que la comtesse m'aime. Qu'est-ce que cela prouverait? Le rusé bonhomme demeurait impassible en apparence, mais son petit œil pétillait de malice heureuse et de satisfaction. Ah, vous ne parleriez pas ainsi, fit-il, si vous connaissiez comme moi le paracé de Sarah Brandon et de Maxime de Brévent. Interrogez ma sœur, elle vous dira l'importance de cette circonstance que vous jugez futile. Madame Berthold eut un signe d'assentiment, et lui, sûr désormais que sa pénétration ne l'avait pas trompé, il poursuivit. Pardonnez-moi d'insister, monsieur Chancet, et d'insister qui plus est en présence de Mademoiselle de la Villaudrée. Mais notre intérêt, je devais presque dire notre salut, l'exige. Maxime de Brévent s'est laissé prendre, c'est vrai, mais Brévent n'est qu'un vulgaire scélérat. Et nous ne tenons encore ni Thomas Elgin, ni Mrs. Boyan, bien autrement redoutable, ni Sarah Brandon, plus perverse mille fois et plus coupable que tous. Vous me direz que nous avons pour nous 80 chances sur 100, peut-être. Seulement, il suffit d'une indication inexacte pour que je fasse fausse route, et alors, adieu nos espérances, les coquins triomphent. Il n'avait que trop raison. Daniel le comprit aussi, sans hésiter davantage. Puisqu'il en est ainsi, fit-il en nous servant à la dérobée, Mademoiselle Henriette, je ne vous dissimulerai pas que j'ai reçu de la comtesse Sarah une douzaine de lettres, au moins extraordinaires. Et vous les avez conservées? Oui, à tout hasard, et elles sont dans une de mes malles. L'embarras du père Ravinet devint manifeste. « Ah, si j'osais, fit-il. Mais non, vous demander à les voir serait trop indiscret. » Sans s'en douter, il allait au-devant des vœux de Daniel. Résolu à tout avouer à Mademoiselle de la Villaudrie, il ne pouvait que souhaiter qu'elle parcourût cette correspondance, car elle devait trouver la preuve que si on lui avait écrit, il n'avait jamais répondu. « Vous ne sauriez être indiscret, vous, monsieur, dit-il au vieux brocanteur. Le floc, mon matelot, doit être arrivé avec mes bagages. » Le temps de descendre jusqu'à ma chambre et vous serez satisfait. » Déjà, il s'élançait vers la porte. Le bonhomme le retint. « Malheureux, vous oubliez donc l'homme qui vous suit depuis Marseille ? Attendez que ma sœur soit assurée que personne ne vous épie. » Madame Berthold aussitôt partit à la découverte. Mais elle n'aperçut rien de suspect, les corridors étant silencieux et déserts. L'espion devait être allé rendre compte de son honorable mission. Rapidement, Daniel descendit. Et lorsqu'il reparut la minute d'après, il tenait une liasse de papier froissé et jauni qu'il tendit au père Rabinet en disant « Voici !» Chose étrange, au contact de ces lettres encore tout imprégnées du parfum accoutumé de la comtesse Sarah, le bonhomme frissonna et blêmit. Son regard vacillait, ses mains tremblèrent. Et aussitôt, soit espoir de dissimuler son trouble, soit désir d'être plus entièrement à ses réflexions, il prit un des candélabres de la cheminée et alla s'asseoir à l'écart près d'une petite table. Madame Berthold, Daniel et Mademoiselle Henriette se taisaient, et rien ne troublait le silence que le froissement du papier et la voix du bonhomme, qui tout en lisant murmurait d'une voix altérée. « C'est inimaginable! Sarah a écrit de telles choses! N'avoir même pas déguisé son écriture! Elle qui de sa vie n'a commis une imprudence, elle s'abandonne, elle se livre, elle se perd, et elle signe! » Mais il en avait assez vu. Il replia les lettres et se redressant. « Plus de doute, monsieur Chancet, prononça-t-il. Sarah vous aimait perdument, follement, jusqu'au délire. Comme elle devait aimer d'ailleurs. Quand même, c'est pareil, les femmes sans cœur, lorsqu'une passion soudaine les foudroie, incendiant leur cerveau et leurs sens. Sur le front de Mademoiselle Henriette, Daniel discernait une ombre d'inquiétude, et désolé, il s'épuisait à faire signe au bonhomme de se taire. Lui ne voyait rien et tout à son idée. Maintenant, poursuivit-il, je comprends. Sarah Brandon n'aurait pas su garder le secret de son amour, et Brévent, ivre de jalousie, n'a pas réfléchi qu'il devait se perdre en armant le bras d'un assassin. La colère avait ramené le sang à ses joues, et du plat de la main, il frappait violemment le paquet de lettres. « Oui, tout s'explique, disait-il encore, et de par cette correspondance, Sarah Brandon, tu es à nous. » Quel pouvait être le dessein du père Raviné? Prétendait-il se faire une arme de ces lettres de la comtesse Sarah? Se proposait-il de les adresser au comte de la ville Audrey dont elle dessillerait les yeux? Daniel en frémit. Sa chevaleresque loyauté trouvant à cette vengeance quelque chose de louche et qui sentait la trahison. C'est que, balbutia-t-il, les vrais la correspondance d'une femme, si odieuse et si méprisable qu'elle puisse être, me répugnerait beaucoup. L'idée ne m'était pas venue de vous le demander, interrompit le vieux brocanteur. Non, c'est d'autres choses que j'attends de vous. Et Daniel, lui paraissant encore inquiet. Cependant, reprit-il, défiez-vous de ces scrupules exagérés, monsieur Chancé. Toutes les armes sont bonnes quand on défend contre les scélérats son honneur et sa vie. Et c'est là que nous en sommes. Si nous ne nous hâtons pas de frapper Sarah, elle nous gagnera de vitesse et alors... Il était venu s'adosser à la cheminée, près de Mademoiselle Berthold, immobile et muette, et regardant alternativement Daniel et Mademoiselle Henriette. « Peut-être, continua-t-il, ne vous rendez-vous pas bien compte de la situation, monsieur et vous, mademoiselle. Réunis ce soir après les plus terribles épreuves, sauvés miraculeusement l'un et l'autre, il vous semble que tout est fini, que vous n'avez plus rien à souhaiter en ce monde, que l'avenir vous appartient. Je dois vous détromper. » Vous en êtes juste au même point que la veille du départ de M. Chancé. Pas plus que ce jour-là, vous ne pouvez vous marier sans le consentement de M. de la Ville-Audrey. Vous l'accordera-t-il? Vous savez bien que la comtesse Sarah ne le souffrirait pas. Comment donc arrangerez-vous votre vie jusqu'à la majorité de Mademoiselle Henriette? Braverez-vous les préjugés et avouerez-vous fièrement votre amour? Ah, prenez-y garde. À briser le cadre étroit des conventions sociales, on joue son bonheur à un jeu terrible. Vous cacherez-vous au contraire? Quelle que soit votre prudence, le monde saura vous découvrir. Vous n'échapperez pas aux lâches calomnies des imbéciles et des hypocrites. Et Mademoiselle Henriette n'a été déjà que trop calomniée. Planer dans l'azur et tout à coup, lourdement, retomber à terre en pleine boue, s'enivrer du rêve le plus magnifique et brusquement être rappelé à l'affreuse réalité, tel fut le malheur de Daniel et de Mademoiselle Henriette. Et ils baissaient la tête sous la parole glacée de cet ami sincère qui avait le courage cruel mais nécessaire de les arracher à leur décevante illusion. Or, continuait-il, notez que je mets tout au mieux et que je suppose le cas où M. de la Ville-Audrey laisserait sa fille libre. En serait-il ainsi? Évidemment non. Que la comtesse Sarah découvre ce soir que Mademoiselle Henriette, au lieu de s'être suicidée comme elle croit, s'est réfugiée à l'hôtel du Louvre, à 20 marches de M. Daniel Chancé, dès demain elle aura décidé son mari à faire enfermer Mademoiselle Henriette dans quelque couvent. Pendant un an encore, Mademoiselle Henriette dépend uniquement du pouvoir paternel, c'est-à-dire du caprice et de la haine d'une belle-mère dont elle est la rivale heureuse. À cette pensée que Mademoiselle de la Ville-Audrey pouvait de nouveau lui être ravie, Daniel sentait tout son sang se figer dans ses veines. « Et dire, s'écria-t-il, que rien de tout cela ne m'était venu à l'esprit. J'étais fou. La joie m'avait noué un bandeau sur les yeux. » Mais le bonhomme du geste lui imposa silence et d'un accent impérieux. « Oh, attendez, reprit-il, je ne vous ai pas encore montré le danger le plus pressant. Le comte de la Ville-Audrey, que vous avez connu 5 ou 6 fois millionnaire, est complètement ruiné. De tout ce qu'il possédait, prêts, forêts, châteaux, valeurs mobilières, titres de rente, rien ne lui reste. » Son dernier sou, sa dernière motte de terre, on lui a tout pris. Vous l'avez quitté vivant d'une existence magnifique dans un hôtel princier. Vous le retrouverez végétant dans un 3e étage de Saint-Louis. Vous dire qu'il est entièrement dépouillé, c'est vous dire qu'il est condamné, n'est-ce pas? Le jour est proche où Sarah se débarrassera de lui, comme elle a su se débarrasser de Kergris, de Malga, le pauvre caissier et des autres. Le moyen est tout trouvé. Déjà, le nom de M. de la Ville-Audrey est compromis. La société qu'il avait fondée est à la veille d'une débâcle honteuse, les journaux le signalent au mépris public. Qu'on l'assigne en déclaration de faillite, il sera dès le lendemain poursuivi pour banqueroute frauduleuse. Or, je vous le demande, le comte est-il homme à survivre aux déshonneurs, même immérités? Depuis un moment, Mademoiselle Henriette ne comprimait qu'à grand peine ses sanglots. Ils éclatèrent sur cette menace affreuse. « Ah, monsieur, s'écria-t-elle, vous m'avez trompé, vous m'avez juré que vous répondiez de la vie de mon père. »« Et je vous en réponds encore, mademoiselle. Serais-je si tranquille si je n'étais sûre que Sarah n'est pas prête encore ?» En proie à une agitation convulsive, Daniel s'était dressé. « N'importe, interrompit-il, réfléchir en un si extrême péril, calculer, attendre serait un crime. Venez, monsieur, venez. Ou malheureux. Et le sais-je, au parquet, chez le comte, chez un avocat qui nous conseillera. Il est impossible qu'il n'y ait pas quelque chose à tenter. » Le vieux brocanteur ne bougeait pas. « Pauvre honnête homme, fit-il d'un ton d'amère ironie, que dirons-nous au procureur impérial ? Que Sarah Brandon a rendu fou d'amour un vieillard, le comte de la ville Audrey ? Ce n'est pas un crime qu'elle s'est fait épouser. C'était son droit. Que le comte s'est lancé dans l'industrie ? Elle s'y opposait. Qu'il n'entendait rien de rien aux affaires ? Elle n'en pouvait aimer. Qu'il a été trompé, dupé et finalement ruiné en 2 ans ? Elle se trouve en apparence ruinée du même coup. Qu'il a eu recours pour retarder la catastrophe à des expédients que la loi réprouve ? Elle le regrette. Qu'il ne supportera pas la flétrissure d'une condamnation ? Elle ne saurait qu'y faire. Sarah, qui le lendemain des détournements de Malga a su se justifier, saurait cette fois encore démontrer son innocence. Mais le comte, monsieur le comte, si nous l'allions trouver ? Monsieur de la Ville-Audrey nous répondrait « Mais non, vous verrez demain ce qu'il nous dira. » Le découragement finissait par gagner Daniel. « Que faire donc » murmura-t-il. « Attendre d'avoir en main assez de preuves pour écraser d'un seul coup la comtesse Sarah, Tom et Mistress Brian. Soit, mais où les prendre ces preuves ?» Le bonhomme jeta à sa sœur un regard d'intelligence et souriant d'un sourire étrange « J'en ai recueilli quelques-unes, fit-il, quant aux autres. Eh bien ?» « Eh bien, cher monsieur Chancé, je ne suis plus en peine de me les procurer depuis que je sais que la comtesse Sarah vous aime. » Maintenant, Daniel devait comprendre le rôle que lui destinait le père Raviné. Cependant, il ne protesta pas. Il baissa la tête sous le clair regard de mademoiselle Henriette et murmura « Je ferai, monsieur, tout ce que vous me conseillerez. » Une exclamation de plaisir échappa au bonhomme, comme s'il eût été délivré de quelque grosse inquiétude. « Alors, prononça-t-il, dès demain, nous entrons en campagne. » Mais il faut que vous sachiez exactement à qui nous avons affaire. Écoutez-moi donc.